Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
En fait, il y a une spécificité de la France qui fait qu'on est un des pays qui a le plus recours à l'insémination artificielle. Pour une raison toute bête, c'est que c'est moins cher. Sauf que les taux de réussite de l'insémination artificielle, c'est-à-dire les taux de grossesse arrivée à terme, c'est genre 10%. Donc c'est vraiment très bas. Et sauf si on a vraiment une cause d'infertilité très identifiée qui fait que on passe directement en FIV, on est un peu obligé de passer par ces étapes-là et donc par pas mal d'échecs avant d'arriver à la FIV. Il faut prouver qu'on est suffisamment infertile pour arriver à la FIV.
Il y a cette inégalité aussi où l'infertilité masculine est souvent plus facile à traiter, où ça veut dire que dans un éjaculat, on va sur des millions de spermatozoïdes, on va aller chercher le bon spermatozoïde et en FIV XI aller l'implanter, et du coup on arrive plus à pallier en fait l'infertilité masculine, alors que sur les ovocytes en fait il y en a très peu, est-ce qu'ils vont arriver à maturation, etc. Donc en fait on est une génération aussi qui promeut et qui attend l'égalité, et en fait faut se rendre compte que biologiquement en fait ça sera toujours plus facile pour un mec déjà parce qu'il sera pas au cœur des traitements, et ça sera plus facile parmi ces millions de spermatozoïdes d'en trouver un ou deux qui feront le taf, alors que nous, si on a une réserve ovocytaire où on en a très peu, en fait sur 10 ovocytes qu'on va aller nous booster en FIV, en fait ça sera pas suffisant, et du coup c'est hyper difficile, je trouve, pour des nanas très féministes et très nouvelle génération, voilà, qui promeut l'égalité, de se rendre compte qu'en fait biologiquement on n'est pas égaux.
Salut, Sally, et bienvenue dans Alors c'est pour bientôt, le podcast qui parle, plus ou moins régulièrement, des difficultés à devenir parent. Moi, c'est Anne Fleur, la créatrice du podcast, et j'ai créé ce podcast au début de 2020 comme un outil auquel j'aurais aimé avoir accès quand moi aussi j'ai voulu devenir maman et que ça marchait pas tout à fait comme je me l'étais imaginé. Alors depuis, oui, j'ai mis ce podcast en pause, et c'était il y a déjà un peu plus d'un an que je publiais mon dernier épisode. Je vous expliquais d'ailleurs dans ce dernier épisode les raisons de ma pause un peu prolongée. Et me revoilà aujourd'hui pour vous parler d'une enquête qui m'a vraiment interpellée. Il s'agit d'un livre qui sort aujourd'hui même, intitulé « Génération infertile », et a été recherché et écrit par trois journalistes indépendants, Pauline Pélissier, Estelle Dautry et Victor Point, qui sont tous trois passés par le parcours long, parfois vicieux et surtout très sinueux de la PMA. Avec Génération Infertile, Victor, Pauline et Estelle nous proposent une enquête. De la détresse au business, une véritable plongée au cœur d'un tabou sociétal, et ils interrogent. Est-ce qu'on est véritablement plus infertile que nos grands-parents? La faute à qui? À quoi? Y a-t-il véritablement une génération infertile? Et pour ce faire, ils ont collecté des centaines de témoignages et d'avis d'experts. C'est un livre que j'ai beaucoup apprécié parce que, d'abord, je l'ai trouvé très facile à lire, malgré la complexité du sujet, et qui est ni trop médical ou technique, ni uniquement basé sur les témoignages. C'est une véritable enquête que j'ai trouvée vraiment passionnante. Et c'est pourquoi j'ai voulu vous en parler. Alors écoutez, je vous propose, sans plus tarder, de laisser place à ma rencontre avec Pauline Pélissier et Victor Point.
C'est un peu le livre qui nous a manqué, on va dire, quand on était nous-mêmes en parcours. On a trouvé qu'il y avait beaucoup de choses, soit médicales, soit du témoignage vraiment individuel. Mais on a trouvé qu'il manquait un peu une grande enquête sociétale et générationnelle qui rassemble aussi bien des experts, des médecins, que des sociologues, que des psychologues, que des économistes, que des experts de podcasts ou de séries télé. Et on s'est dit qu'en fait, l'infertilité, ça traverse un peu tout... plein de domaines des sciences humaines et ça traverse la société en fait de manière générale, et donc c'était intéressant de prendre vraiment un angle très transverse pour montrer que ça touchait à plein de choses, aussi bien à l'hôpital public qui va pas forcément très bien en France, que à la façon dont on raconte l'intime aujourd'hui avec les podcasts. Donc on trouvait qu'il y avait plein de choses à dire qui étaient pas forcément dans les enquêtes ou dans les livres qu'on avait vus jusqu'ici, et du coup on s'est dit allez, on y va, on le fait nous.
« Ils ont l'air très soudés et de bien se connaître. Pourtant, si Estelle et Victor sont en couple depuis une dizaine d'années, c'est en fait Pauline qui les a approchés après avoir découvert leur documentaire photo pour leur parler de son projet de livre.
C'était un documentaire photo, on va dire une série photo, paru dans Polka, qui est un magazine spécialisé sur la photo. Et donc Victor en a parlé sur son Instagram, et en fait on était connaissances, on a fait la même école de journalisme à une année d'écart. Et donc c'était un peu, on va dire, on peut dire un coming out d'infertile de raconter ça sur Instagram. Et c'est vrai que moi je l'avais pas forcément raconté, donc après on a échangé un message privé. Parmi nos échanges, j'ai dit à Victor que j'avais eu un projet de livre que j'avais pas mené à bout. On a décidé, à trois, ça nous a fait moins peur aussi de se lancer dans cette aventure.
On s'est lancé en 2019 dans la documentation en photo de notre parcours PMA, parce que voilà, on ne s'attendait pas du tout à être infertile, comme beaucoup de couples infertiles. Quand ça nous tombe dessus, on ne s'y attend pas, quoi. Enfin, on s'imagine que ça va être facile, rapide, sans problème. Et comme on s'est pris ça en pleine tête, on s'est dit, bon, on est journaliste, je suis photographe, qu'est-ce qu'on peut en faire? On va en faire un documentaire photo, en sachant pas du tout où ça allait. Donc l'idée, c'était de documenter le quotidien. Et quand le sujet est paru dans Polka, on était encore en parcours, complètement encore dans notre parcours, qui n'était pas du tout fini. Et effectivement, bah voilà, je l'ai posté sur Instagram, ce qui est étonnant, je savais que ça susciterait quelques réactions, je ne pensais pas autant. J'ai eu beaucoup de messages de personnes que je connaissais plus ou moins, encore une fois, et qui m'ont contacté pour me raconter leur histoire, en fait, très, très simplement. Et bah, Pauline est la seule à me dire à ce moment-là, j'avais prévu d'écrire un livre. Donc je fais, bah, écoute, c'est parti, allons-y.
Génération infertile, c'est un mélange de témoignages de couples infertiles de tout horizon et d'interviews d'experts tout autant en médecine qu'en pop culture. Ces recueils font preuve d'une grande diversité. L'enquête a aussi pour originalité de commencer par une introduction qui pose le contexte de l'ouvrage et qui explique pourquoi le sujet est fondamental. Vous l'avez entendu, Pauline évoque le terme de « coming out » d'infertile pour faire référence au fait qu'on avoue à son entourage, ou même au grand public, c'est galère pour devenir parent. Et c'est justement une des spécificités du trio auteurs de Génération Infertile, puisqu'ils sont tous trois passés par l'infertilité. Alors, est-ce que ça leur confère une plus grande légitimité à traiter de ce sujet? Est-ce que leurs parcours sont une force dans ces recherches, ou plutôt vulnérabilité du fait des blessures qu'il peut laisser derrière lui?
On a vraiment donné la parole à d'autres personnes, et on a essayé d'avoir le plus possible de témoignages, pour que ce soit vraiment le plus représentatif possible, parce qu'on estimait qu'on était quelque part deux petits couples parisiens, qu'à Paris aussi on a accès à beaucoup plus de centres de fertilité, de centres PMA. On est journaliste, donc il y a un côté aussi où quand c'est toujours des journalistes qui racontent leur histoire, c'est un peu tout le temps la même chose et pas très représentatif. Donc l'idée, c'était vraiment nous de se mettre en retrait aussi et de laisser les autres s'exprimer. Donc on n'est pas du tout au cœur, on va dire, de cette enquête, hein. C'est pas du gonzo journalisme où on raconte J1, J2, J3, etc. Après, on était dans des postures différentes.
En effet, Victor et Estelle étaient eux encore en plein dans le parcours de PMA lorsqu'ils ont commencé l'enquête, tandis que Pauline en était sortie il y a quelques années, puisqu'elle est devenue maman d'une petite fille en 2019.
Même si en vrai, on n'en sort jamais vraiment, j'ai l'impression. Et que peut-être que j'y retournerai un jour. Donc voilà, en fait, on est toujours un peu dans un entre-deux aussi. Mais c'est vrai que ça permet, ça réactive, on est très dans l'empathie avec les parcours. Ça nous a énormément touchés, tous ces gens qu'on a eu au téléphone. Et c'est vrai qu'on y est avec aussi beaucoup d'humilité, parce qu'on est aussi des parcours qui ont abouti, qui ont réussi. Et à côté de parcours de gens qui ont passé 10 ans et pour qui ça n'a pas marché. C'est plus facile peut-être d'en parler pour nous et moins douloureux parce qu'on a eu un enfant à la fin qui est arrivé. Mais quelque part, on voulait aussi laisser la place dans le livre à tous ceux aussi pour qui ça ne marche pas et pour qui il faut réinventer un projet de vie derrière et pour qui c'est très douloureux, alors que quelque part, nous, ça l'était moins au vu du timing, on va dire, et de la conjoncture de nos vies, quoi.
Alors nous, on avait déjà un peu l'habitude donc, de documenter mais notre parcours pendant qu'on le faisait.
Victor et Estelle ont donc signé ce livre avec leur éditeur, alors que leur parcours était donc encore en cours, et que lui et son épouse, co-auteur, attendaient, ou plutôt espéraient encore une grossesse. Et finalement, s'est produit un alignement de planètes plutôt incroyable, car au moment où on a enregistré cette interview, Victor et Estelle sont les parents d'une petite fille, âgée de 5 semaines, alors même que l'enquête va être publiée.
Et donc on se lançait là-dedans un peu sans vraiment trop savoir. Et c'est vrai qu'on s'est fait la réflexion probablement à l'automne, parce qu'au départ notre démarche ça a été d'abord d'interroger beaucoup de spécialistes de la question. Voilà, surtout des spécialistes médicaux. Et ensuite, de rentrer dans les témoignages et d'interroger les gens sur leur parcours personnel à partir de septembre-octobre. Et c'est vrai que quand on a reçu tous les témoignages, qu'on a eu toutes les histoires qu'on nous a racontées, on s'est vraiment fait la réflexion que ça aurait peut-être été trop dur pour nous si on était nous-mêmes en plein doute, en échec, ou peut-être en train d'abandonner, je sais pas. On aurait très certainement terminé le livre, de toute façon on avait signé, mais on aurait mis une tonalité un peu plus sombre peut-être dans le livre. À la fin, finalement, ça n'a pas trop joué puisque ça s'est plutôt bien passé pour nous, même si à la fin de la rédaction, pour le coup, en tout cas pour la relecture des épreuves, on a laissé Pauline seule parce que c'est au moment où Estelle a couché. Mais oui, non, ouais, ça nous a permis de beaucoup mieux, je pense, comprendre les parcours de tous les gens qu'on interrogeait. Je veux dire, même, je pense, pour eux, c'était presque plus simple parce que ça nous est, je sais pas si ça nous est tous arrivé, mais ça nous est arrivé d'aller voir, par exemple, des psys. En dehors de la PMA, et qu'on doive leur expliquer ce que c'est que la PMA. Et là, je pense que c'est un peu la même chose quand on se confie à quelqu'un qui connaît déjà ce que c'est qu'une PMA, c'est beaucoup plus simple. On va à l'essentiel, on va à ce qui touche vraiment l'intime. Et je pense que c'est pour ça qu'on a réussi à avoir des histoires aussi fortes dans le livre, c'est qu'on a réussi à toucher l'intime, enfin, à ce que les gens nous racontent leur intime assez rapidement.
Cette enquête sociétale s'adresse aux infertiles, à tous, parisiens ou non, racisés ou non, d'horizons très divers, et à leurs entourages. Mais cherche également à faire tomber les barrières pour toucher tous les citoyens curieux, au travers d'interviews et témoignages.
Ce qui était important, c'est que ça reste un livre grand public et qu'il puisse être acheté par des gens qui ne sont pas forcément touchés par l'infertilité ou par l'entourage. Et c'est vrai que j'ai le témoignage parfois de belle-mère dont la belle-fille est concernée et le fils est concerné et ils savent pas forcément quoi dire, quoi faire. C'est vrai que c'est un sujet qui met mal à l'aise en fait l'entourage. On se dit en fait si on pose des questions, on va peut-être mal les poser ou ça va tomber au mauvais moment. Si jamais on pose pas de questions, ça montre qu'on s'intéresse pas. Donc il y a vraiment un côté, je pense, où ça va vraiment être utile aussi aux proches. Il y avait quelque chose aussi où, vu que c'est très général tout le long et qu'on ne rentre pas non plus dans des détails hyper pointus et la lecture est assez fluide, il fallait que ce soit un livre agréable à lire et du coup, voilà, qu'on ne se le coltine pas comme un livre, quelque chose de très médical, très ardu et que ce soit quand même agréable et que ça puisse toucher le plus grand nombre, le plus grand public possible en fait.
Pour avoir des témoignages, ce que Pauline expliquait au départ, c'est-à-dire que on connaît tous des infertiles, surtout à partir du moment où on a fait notre coming out, évidemment qu'il y a eu plein d'histoires qui se sont révélées autour de nous, mais c'était beaucoup des gens, des amis, donc beaucoup de gens qui nous ressemblent quand même pas mal. Et nous, on voulait vachement élargir, on voulait vraiment prendre l'infertilité comme une question de société, et donc qui touche toutes les couches sociales, tous les âges concernés par les gens qui veulent avoir des enfants. Et donc on a construit un questionnaire assez épais sur internet qu'on a diffusé à partir de août, quelque chose comme ça, ou peut-être dès juillet peut-être, sur différents groupes de paroles, notamment sur Facebook, sur Instagram, enfin on a eu des relais un peu partout autour de nous aussi, pour essayer d'avoir, pour qu'il y ait un maximum de gens nous répondent, et on a eu près de 500 réponses, on a eu 481 réponses. Ce qui nous a assez, enfin on était contents parce qu'en plus le questionnaire, comme je l'ai dit, était assez épais quoi, donc il y avait pas mal de questions et tout, et les gens sont vraiment allés rapidement répondre. Je me souviens qu'on avait lancé le questionnaire un lundi matin et je crois que le lundi après-midi on avait déjà 20 réponses, dont des gens qui avaient écrit des pavés incroyables sur leur histoire, enfin qui avaient besoin de parler quoi, qui avaient vachement besoin de parler sur ça. Et en fait, avec le questionnaire, on a pu sélectionner, parce qu'on demandait beaucoup de détails sur la vie des gens, leur catégorie socio-professionnelle, si elles se percevaient comme racisées, où est-ce qu'elles vivaient, dans quel coin, est-ce qu'ils vivaient dans une ville, dans un bled paumé, enfin bref, plein de choses comme ça, pour arriver vraiment à mélanger tout ça, si elles vivaient par exemple en Corse, en Outre-mer, pour avoir des récits, des histoires qu'on n'entend pas. Parce qu'effectivement, les histoires qu'on entend beaucoup, c'est les nôtres, c'est les trentenaires parisiens ou dans des grandes villes, ou voilà. Et donc d'avoir des gens qui bah comment est-ce qu'on fait concrètement pour être en parcours PMA pendant 5, 6, 7, 8 ans, alors qu'on a un petit salaire, qu'on vit à 1h30 du centre de PMA, quels sont les sacrifices qu'il faut concevoir, qu'il faut qu'on céder. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a eu énormément de retours comme ça. Et aussi, effectivement, d'avoir des personnes racisées, c'était important pour nous, parce que la problématique peut être très différente, notamment, je pense, aux dons. Quand on a besoin d'un don de sperme ou d'un don d'ovocytes, qu'on est noir ou qu'on est arabe, voilà. En France, c'est beaucoup plus long. C'est déjà long quand on est blanc, mais c'est beaucoup plus long. L'attente est beaucoup plus longue. C'est de l'ordre de 4-5 ans, je crois. Donc, ce qui est super long. Donc, ceux qui ont les moyens partent à l'étranger, généralement. Et les autres, bah, ils poireautent, quoi. Ils attendent et ils n'ont pas d'enfants et ils souffrent dans leur coin. Qui oblige l'appareillement. C'est-à-dire le fait d'avoir un enfant de la même couleur que soi. Ça n'est pas du tout obligatoire. C'est très fortement suggéré par les équipes médicales, généralement. Et en fait, la plupart du temps, les gens veulent quelqu'un qui leur ressemble, un enfant qui leur ressemble. Mais voilà. Donc voilà, c'était pour une des problématiques, par exemple, qu'on a pu faire grâce à ce questionnaire. Et en fait, on a recontacté après les gens, c'est-à-dire qu'on ne s'est pas contenté juste des réponses écrites. On a pris le temps de rappeler, je pense, une cinquantaine de personnes en tout, si ce n'est pas plus, et de les avoir une demi-heure, une heure et demie au téléphone, ça dépendait. Et il y en a encore avec lesquels on est en contact, quoi, pour qu'ils nous racontent un peu l'évolution de leur parcours. Et par exemple, je ne sais pas si tu te souviens, mais la personne qui ouvre le livre après l'introduction, elle s'appelle Hélène et elle est toujours en parcours aujourd'hui. Elle me tient encore au courant et pour elle, ça marche toujours pas, quoi. C'est toujours, elle a un dernier espoir là maintenant qu'elle va essayer de faire dans les prochaines semaines, je crois. Et c'est hyper important pour nous. Elle m'a écrit là il y a quelques semaines, alors que nous, on était un peu dans l'euphorie de, on a eu un enfant, le livre est en train de sortir et tout. Et pour nous rappeler un petit peu la réalité de, non mais voilà, c'est vraiment la galère pour plein de gens. Il y a plein de gens pour lesquels ça ne fonctionne pas, donc de remettre les pieds sur terre, quoi. Que la bonne nouvelle qui peut nous arriver à nous ou à nos proches ou je ne sais pas quoi, est loin d'être la même pour tout le monde, quoi.
Un point qui est soulevé et qui est d'ailleurs abordé sous divers angles dans l'enquête, c'est le recours au traitement à l'étranger. Pour les patients, comme Victor le mentionnait à l'instant, mais aussi côté recherche sur l'infertilité par exemple, car on sait que les investissements publics dans ce domaine sont très souvent bien plus importants chez nos voisins.
Bah, c'est vrai que du coup en France, c'est vraiment l'Espagne en fait qui est le pays, on va dire, refuge des infertiles qui n'ont pas de solution en France, des gens pour qui le don d'ovocytes va prendre trop de temps. Et en fait, le problème, c'est que les gens ne sont pas le temps, en fait, parce que les parcours démarrent relativement tard. On l'explique dans le livre, voilà, et ça, tout le monde le sait, qu'on a des enfants plus tard. Et la première cause d'infertilité, c'est peut-être l'âge, avant tout, même s'il y a des causes médicales et environnementales qui se rajoutent. Donc les gens vont pas mal en Espagne. Et du coup, en Espagne, vu que les parcours sont payants, etc., il y a beaucoup plus d'investissements dans la recherche. Et surtout, en fait, il y a des techniques médicales comme le diagnostic préimplantatoire, le DPI, qui sont autorisées en Espagne et qui ne le sont pas en France, et qui permettent, en fait, d'avoir des embryons de meilleure qualité. Et quand ils sont implantés, en fait, ça réussit beaucoup plus vite que chez nous. Donc, on va dire que, voilà, ils ont développé des techniques qui sont, meilleures que les nôtres, alors que pourtant, ils ont des cas en moyenne plus difficiles, parce que souvent, les gens commencent leur parcours en France et quand ça ne marche pas, vont en Espagne dans un second temps. Mais après, du coup, c'est des FIV qui coûtent relativement cher, que les gens payent. Et puis derrière, c'est des gros groupes qui investissent dans la recherche. Et j'ai entendu, du coup, récemment, qu'il y a même, en fait, des garanties financières où, si les couples finissent par ne pas avoir d'enfants, ils sont remboursés, etc. Et du coup, il faut être relativement sûr de soi et de ses techniques, en fait, pour être capable d'appliquer ça. Puis du coup, ils ont aussi des donneuses plus jeunes, parce que c'est du don rémunéré. Donc ça va être des ovocytes d'étudiantes qui ont la vingtaine, alors que chez nous, ce ne sera pas forcément ce profil-là qui va aller donner.
Pendant très longtemps, en France, il fallait avoir déjà eu un enfant pour pouvoir faire un don, d'ailleurs, non ?
Exactement. Donc du coup, ça faisait des donneuses beaucoup plus âgées aussi, donc pas la même qualité ovocytaire. Donc en fait, ils ont tellement plus d'avance que nous. Et je sais que le professeur Amama, quand on l'avait interviewé aussi, disait que même aux États-Unis, dans les cliniques à New York, c'est des taux vraiment plus meilleurs taux que chez nous en France au niveau des taux de succès des FIV, et que la France n'est pas un très bon élève. Après, on a la chance, et ça, il faut quand même le dire, d'avoir un parcours qui, quand on passe par le public, même si c'est long et que ça prend du temps, on est un des seuls pays au monde, et je crois qu'il y a Israël et un ou deux autres pays. On avait fait une étude à travers l'Europe, mais on est très bien classé dans l'accès à la PMA. Mais par ailleurs, ce n'est pas forcément la meilleure PMA du monde non plus, quoi. Donc voilà.
Sur le DPI, c'est possible en France, mais uniquement si les parents ont des maladies génétiques très identifiées. Et je crois qu'il y a 3 ou 5 centres en France, c'est tout. Enfin, c'est très compliqué d'y aller. C'est hyper long et bon, ça mériterait d'être quand même développé pour éviter beaucoup de fausses couches. Et sur le taux de réussite en France, en fait, il y a une spécificité de la France qui fait qu'on est un des pays qui a le plus recours à l'insémination artificielle. Pour une raison toute bête, c'est que c'est moins cher. C'est moins cher, sauf que les taux de réussite de l'insémination artificielle, c'est-à-dire les taux de grossesse arrivée à terme, c'est genre 10%. Donc c'est vraiment très bas. Et en fait, sauf si on a vraiment une cause d'infertilité très identifiée, qui fait que on passe directement en FIV, on est un peu obligé de passer par ces étapes-là, et donc par pas mal d'échecs avant d'arriver à la FIV. Il faut prouver qu'on est suffisamment infertile pour arriver à la FIV. L'insémination artificielle, c'est vraiment, moi c'est un truc, c'est la Cour des comptes qui avait fait un truc là-dessus, qui disait 10% de réussite, c'est quand même une chance sur 10 pour réussir son insémination artificielle, c'est quand même très peu pour toutes celles qu'on a fait, alors qu'on sélectionne tout est censé être prêt pour la fécondation. C'était juste la petite précision pourquoi aussi nos taux de réussite sont si faibles sur le parcours PMA général, et même en particulier quand on se concentre juste sur la FIV, il y a des différences de taux de 5 à 10%, je crois, ce qui est énorme, hein, de 40 à 40% de réussite en FIV après 4 tentatives en France. Donc, il faut une FIV, c'est déjà une chance sur 5. Et après, on réussit à avoir, pour tous les couples qui arrivent jusqu'au bout. Parce qu'en fait, pardon, je rentre un peu dans les détails des chiffres, mais parce qu'il y a souvent des chiffres un peu farfelus qui sont sortis. Souvent, les centres avancent, ils disent 75% de réussite après 4 FIV. En fait, c'est surtout si les couples qui arrivent jusqu'à 4 FIV réussissent jusqu'à 75%. Sauf qu'il y en a plein qui arrêtent en cours de route. Donc, quand on prend ça en compte, il n'y a que 40% des couples qui arrive à avoir un enfant après 4 filles. Bref, et c'est assez faible en fait, niveau parmi les pays qui mettent l'accent sur la PMA, c'est assez faible.
Alors, restons sur les chiffres un instant. Dans leur enquête, Estelle, Victor et Pauline mettent en évidence que 18 à 24% des couples en France sont infertiles. Mais pourquoi est-ce que ce chiffre n'est pas plus précis ? Et en parlant de recours à l'étranger d'ailleurs, tant pour les couples hétéros que les femmes seules ou encore les couples homosexuels, est-ce que c'est la principale raison de l'ordre de grandeur finalement assez large de cette estimation ? En somme, est-ce que l'étranger et la difficulté d'accès à certains traitements en France rendent ces parcours encore plus difficiles à suivre et à quantifier ?
C'est hyper dur en fait de trouver le bon chiffre qui va illustrer, et c'est un peu le problème qu'on a après pour raconter, illustrer le phénomène. C'est que bien sûr, en plus, il y a des couples qui potentiellement vont vivre ça dans leur intimité, mettre des années à avoir un enfant ou à ne pas en avoir, jamais aller consulter, et du coup, vu que ça reste entre deux, ça ne passera jamais dans aucun filtre statistique, et du coup, personne ne sera jamais au courant. Donc il y a toute une partie, comme tu le disais, des gens qui vont à l'étranger, des gens qui sont en couple homosexuel, et du coup, dans tous les cas, peut-être le couple de nana, elle partirait, le couple de femme, elle partirait à l'étranger faire un enfant, mais sauf que l'une des deux est peut-être SOPK ou a de l'endométriose, donc ça va complexifier encore plus le parcours. Du coup, est-ce qu'on se dit, en fait, dans tous les cas, elles auraient besoin d'un parcours, du coup, mais est-ce qu'elles sont infertiles alors que d'autres ne sont pas infertiles ? Enfin, du coup, ça complexifie énormément. Énormément la comptabilité, les données des couples, et c'est un peu la difficulté qu'on a, où on entend chaque fois des chiffres hyper différents, un couple sur 8, un couple sur 6, un couple sur 5, maintenant on entend un couple sur 4 qui au bout de 12 mois n'aurait pas d'enfant, 12 mois à essayer n'aurait pas d'enfant, mais qu'est-ce que ça veut dire 12 mois à essayer ? Enfin voilà, c'est aussi, ça rentre tellement dans l'intimité aussi du couple, que est-ce que c'est la nana qui essaye toute seule, mais est-ce que le mec n'a pas vraiment envie ? Enfin, voilà. Ou l'inverse, hein, parce que ça fait un peu cliché de dire comme ça. Est-ce que du coup, l'un des deux n'a pas envie ? C'est vrai que c'est compliqué d'estimer.
Le problème des chiffres aussi sur l'infertilité, c'est que ça regroupe tellement de situations très diverses, très différentes. Déjà, comment est-ce qu'on réfléchit en termes d'infertilité? Est-ce qu'on réfléchit en termes de couple? C'est-à-dire que il y a deux personnes qui ont des petites infertilités, donc ça va pas marcher pendant très longtemps. Mais cette même personne, si elle s'était mise avec une autre personne tout à fait fertile, bah ça aurait marché du premier coup. Donc est-ce qu'on compte les couples infertiles? Est-ce qu'on compte les personnes infertiles? Voilà, il y a différents degrés d'infertilité qui fait que c'est très difficile d'avoir un chiffre tout à fait clair. Aujourd'hui, le chiffre retenu, et même par la mission, le rapport qui vient d'être rendu, c'est un couple sur quatre, donc c'est le fameux 24%. Pourquoi 24%? Parce qu'en fait, avant les 18%, donc de couples qui n'arrivaient pas à avoir d'enfants au bout d'un an, qui est la définition officielle retenue par l'OMS et par la France, sur l'infertilité, c'était les couples qui vont consulter. Parce que les seuls chiffres qu'on avait, c'était les couples qui faisaient la démarche d'aller en PMA, d'aller voir leur gynéco et d'aller consulter. Et il y a des chercheurs, notamment une chercheuse qu'on cite beaucoup dans notre livre qui s'appelle Élise de la Roche-Brochard, qui s'est posé la question et qui a, avec plusieurs autres chercheurs, qui a fait une étude un peu plus large en appelant en fait les gens au hasard. En fait, bon, je rentre pas dans les détails de l'étude, mais en appelant des gens et des couples pour leur dire « Est-ce que vous essayez? Depuis combien de temps vous essayez ?» Et ils sont arrivés, après avoir appelé plusieurs milliers de couples, je crois, ils sont arrivés à ce chiffre de 24%. Pour dire, ben voilà, il y a plein de gens qui ne vont pas consulter, il y a plein de gens qui n'ont pas ce réflexe-là, ou qui ne veulent pas le faire, ou qui préfèrent, je ne sais pas, pour des raisons religieuses ou autres, ne pas avoir recours à la médecine. Et ces couples-là, si on les intègre, on arrive plutôt à un couple sur quatre qui a des difficultés, qui n'arrive pas à avoir d'enfants après un an d'essai. Mais voilà, c'est les chiffres sur lesquels on se base aujourd'hui parce qu'on a un peu faute de dépistage peut-être plus tôt, parce qu'il y a aussi ces questions-là. Et puis, c'est très compliqué aussi, même, je veux dire, une personne qui peut avoir un peu d'endométriose à 22 ans, qui ne va pas l'empêcher d'avoir un enfant, et bien l'âge aidant va à 30, 35, au moment où elle va essayer d'avoir un enfant, l'endométriose s'est aggravée, voilà, parce que c'est une maladie qui progresse, et bien là, ça va être beaucoup plus compliqué. Voilà, les chiffres sont un peu durs. Donc on retient ce chiffre d'un couple sur quatre, parce qu'il est un peu percutant et tout ça, et ça fait 3,2 millions de couples, 3,2 millions.
3,3,
je crois.
Dans le rapport, il existe 3,3 millions.
Ouais, voilà, de personnes. Mais c'est un peu... Bah, voilà, c'est toujours le problème avec ces chiffres, ces ordres de grandeur. C'est des ordres de grandeur, on va dire.
Sommes-nous plus infertiles que nos parents et nos grands-parents? Pour le savoir, les auteurs de Génération Infertile interrogent différents facteurs, parmi lesquels notre mode de vie, la mauvaise information ou même la désinformation, l'environnement, ou même la pilule qui retarde le diagnostic. Alors, l'infertilité est-elle plus connue ou véritablement plus courante? Y a-t-il une génération infertile?
Alors, est-ce qu'on est plus infertile qu'avant? La réponse est oui, grosso modo, effectivement. Les causes, c'est un peu plus compliqué. C'est encore cette question de chiffres et de perception. Parce que, comme pour beaucoup de maladies, par exemple, prenons l'endométriose qui est la plus médiatisée en ce moment. L'endométriose, est-ce qu'elle progresse, est-ce qu'elle ne progresse pas, on ne sait pas. Mais en tout cas, il y a de plus en plus de gens qui l'identifient, qui savent l'identifier. Donc les chiffres grossissent. C'est un peu la même chose pour l'infertilité. C'est-à-dire que maintenant, les gens vont plus facilement consulter ou s'interrogent plus rapidement si ça ne marche pas, enfin voilà. Disons qu'on a plus rapidement la démarche et donc on est plus rapidement identifié comme étant une personne infertile. Dans les grandes causes de l'infertilité dans le mode de vie, c'est l'âge le premier, mais qui est en fait une sorte de multiplicateur des problèmes qu'on peut avoir. Je n'aime pas dire problème parce que c'est pas non plus. C'est un peu péjoratif, mais qui est un multiplicateur de tous les soucis médicaux qu'on peut avoir soi. Comme on disait tout à l'heure, l'endométriose, c'est une maladie qui s'aggrave. Le SOPK, c'est plus compliqué, mais c'est une maladie qui peut s'aggraver aussi. J'en sais rien, les hommes aussi, ça on le dit à un moment, les hommes ont une horloge biologique, on le sait assez peu, mais à partir de 34-35 ans, la qualité, le nombre de spermatozoïdes diminue, naturellement. Donc voilà, donc il y a tout ça qui fait que l'infertilité augmente, parce qu'on fait des enfants de plus en plus tard, pour la réponse générale. Mais aussi parce que nous sommes dans une ère industrielle depuis 150 ans maintenant et que on a pu observer, alors la plus grande observation qu'on ait faite, c'est celle concernant les spermatozoïdes, la décrue de la qualité spermatique, du nombre et de la qualité des spermatozoïdes qui a décru de 50% en 50 ans à peu près. Bon, les chiffres varient un petit peu, mais c'est l'ordre d'idée, disons. Il y a eu déjà beaucoup, beaucoup de méta-analyses là-dessus, sur ces questions-là. Qui est un chiffre qui fait un peu peur et qui fait dire à certains spécialistes d'ailleurs que d'ici, si on ne fait rien, si on ne change pas nos modes de vie, donc on pourra peut-être reparler, mais sur les perturbateurs endocriniens, sur l'alcool, sur la cigarette, sur l'obésité, sur toutes ces questions-là. Certains chercheurs avancent qu'en 2045, la majorité des gens pour faire un enfant devront avoir recours à la PMA. Aujourd'hui, c'est un enfant sur 30 en France qui est né de la PMA, donc un enfant par classe. Et les projections peuvent, les plus pessimistes vont dire que la majorité des enfants de la classe seront nés par PMA d'ici à 40, même pas, disons, ça fait 20 ans. Ouais, disons, ça se rapproche vite, les enfants de nos enfants. Après, c'est des questions, on peut rentrer dans les détails des questions médicales si tu veux, parce que c'est, bon, je trouve ça hyper intéressant, même si c'est assez. Un peu compliqué à comprendre. Et juste sur la qualité du spermatozoïde, par exemple, c'est un truc. C'est un chiffre qui est un peu choc de dire 50%, enfin les hommes ont perdu 50% de leur sperme en 50 ans. Mais les spécialistes de la PMA, enfin ou de la reproduction, disent c'est pas forcément ça le plus important. Parce qu'on est passé de, par exemple, de 40 millions de spermatozoïdes dans chaque éjaculat à 20 millions. Bon, il en reste quand même 20 millions, quoi. Donc ça va, c'est pas non plus là le principal problème.
Et justement, on pourrait penser que ce ne sont finalement que des chiffres. Mais souvenez-vous de la 60aine d'épisodes qu'on a fait ensemble dans Alors c'est pour bientôt. C'est un peu fou de penser qu'encore aujourd'hui, que l'infertilité du couple vienne de la femme ou non, la seule personne qui est considérée comme un patient dans grand nombre de cas, c'est la femme. Dans l'imaginaire collectif, encore énormément de personnes ignorent tout simplement le fait que l'infertilité puisse être d'origine masculine. Alors non, ce ne sont pas que des chiffres. Pour moi, cela dépeint une réalité fondamentale dont la société doit prendre conscience.
On dit qu'il y a à peu près 30% c'est le fait de l'homme, 30% c'est le fait de la femme, 30% c'est le fait des deux, et les 10% restants sont inexpliqués. Alors ces chiffres peuvent bouger, hein, certains spécialistes vont dire 15-20% pour les causes inexpliquées, tout ça, ça dépend parce qu'on a pas mal de soucis là-dessus, et notamment sur les infertilités venues des hommes. Le problème c'est qu'on les identifie très tard, c'est-à-dire au moment de la consultation en PMA, parce que, ça c'est un truc dont on parle aussi qui est hyper important, que les hommes ne vont jamais consulter pour leur santé sexuelle, absolument jamais, sauf quand il y a un souci justement, voilà. Ça c'est un truc qu'il faudrait changer parce que, comme tu le dis, c'est un problème qui concerne autant les hommes que les femmes, et qu'il n'y a pas de raison que ce soit ça, que tout repose sur les femmes.
Il y a cette inégalité aussi où l'infertilité masculine est souvent plus facile à traiter. Où ça veut dire que dans un éjaculat, on va sur des millions de spermatozoïdes, on va aller chercher le bon spermatozoïde et en FIV XI aller l'implanter. Et du coup, on arrive plus à pallier en fait l'infertilité masculine. Alors que sur les ovocytes, en fait, il y en a très peu. C'est hyper complexe de ce qu'ils vont arriver à maturation, etc. Donc en fait, on est une génération aussi qui promeut et qui attend l'égalité. Et en fait, faut se rendre compte que biologiquement, en fait, ça sera toujours plus facile pour un mec déjà parce qu'il sera pas au cœur des traitements, et deux, ça sera plus facile parmi ces millions de spermatozoïdes d'en trouver un ou deux qui feront le taf, alors que nous, si on a une réserve ovocytaire où on en a très peu, ben en fait sur 10 ovocytes qu'on va aller nous booster en FIV, ben en fait ça sera pas suffisant, et du coup c'est hyper difficile, je trouve, pour des nanas très féministes et très nouvelle génération, voilà, qui promeut l'égalité, de se rendre compte qu'en fait biologiquement on n'est pas égaux, et que du coup la PMA ça reste une affaire de femme, malheureusement, en fait, même si l'infertilité peut être masculine. Et du coup, je trouve ça très difficile à vivre, d'autant plus pour notre génération qui cherche justement à s'émanciper de ces stéréotypes-là.
Parmi les nombreux chiffres qui m'ont marqué dans cette enquête, il y en a un que je veux vous partager ici. D'ici à une vingtaine d'années, les experts estiment que la majorité des enfants d'une classe de 30 seront issus de la PMA. Ça m'a fait penser un peu à Handmaid's Tale, ou La Servante écarlate, je crois, en France, qui dépeint un scénario absolument catastrophe dans lequel les couples ne sont plus fertiles et ont recours à des servantes sexuelles pour se reproduire. Une série choc qui a fait carton plein d'ailleurs côté audience dans le monde entier, et c'est d'ailleurs tout un aspect sur lequel une partie de l'enquête se concentre. L'infertilité dans la pop culture, l'infertilité qui s'empare de l'espace médiatique public.
Donc moi, ça m'a perturbée parce que j'étais en plein processus PMA quand la série est sortie, et du coup, je l'ai regardée. Et c'est vrai que c'est quand on est en PMA et qu'on regarde cette série, c'est quand même hyper déstabilisant. Et quelque part, en fait, la série, du coup, est assez récente, mais le livre est très ancien. Donc c'est ça qui est assez fou. Je crois que c'était les années 70. Mais quelque part, en fait, ça a eu le mérite de mettre vraiment l'infertilité et cette dystopie en fait au cœur de l'actu, et cette série elle est quand même hyper bien réalisée, et quelque part je pense qu'elle a aussi quelque part servi la cause, parce qu'elle nous alerte sur au niveau environnemental, enfin, si on pousse vraiment la planète à bout et que, qu'on laisse se détériorer la fertilité, peut-être que dans 100 ans, on en sera là, en fait. Enfin, on en sera là à avoir vraiment du mal à se reproduire. J'espère qu'on n'en sera pas là à réduire des gens en esclavage. Mais effectivement, en fait, c'était une série assez, je pense, qui a marqué et qui marque les infertiles. Et du coup, ça a été en partant de cette série-là qu'on s'est demandé un peu, voilà, quelles étaient les premières séries télé à nous en avoir parlé, où est-ce qu'on a pu croiser des personnages infertiles. Donc c'était assez intéressant, mais très dur en fait à identifier parce qu'on connaît pas tout. Et donc c'est vraiment, on a un peu mis ce qu'on avait trouvé, mais on est peut-être passé à côté de certains genres qu'on ne regarde pas. C'était assez intéressant, voilà. Du coup, moi, j'ai re-regardé Sex and the City en me disant, mais alors Charlotte, est-ce qu'elle était infertile? Mais c'était vraiment, voilà, par petites bribes où on comprenait des choses et on se rend compte qu'aussi les séries télé elles ont progressé entre il y a 20 ans et maintenant il y a vraiment une documentation de dingue derrière les scénarios, la psychologie des personnages, tout est beaucoup plus poussé, détaillé, et du coup quelque part ça sert aussi les causes qui sont évoquées dans ces séries là parce que c'est moins caricatural, c'est beaucoup mieux fait, et notamment je crois que c'est This Is Us où du coup il y a un des personnages qui est infertile et où du coup c'est beaucoup mieux documenté que dans Sex and the City ou dans Friends où du coup c'était, après c'est des séries comiques où c'est abordé très vite fait, mais donc maintenant on a la chance quelque part aussi d'avoir ça qui sert aussi au niveau grand public et pop culture et qui informe aussi sur des problématiques de santé publique.
Alors, l'infertilité sur le devant de la scène, oui, on entend souvent dire, ou du moins de plus en plus, que la parole se libère autour de l'infertilité et des difficultés à devenir parent. Pourtant, on le sait tous, ça reste encore un sujet tabou. Alors, est-ce que la parole se libère vraiment, ou est-ce que ça se fait uniquement dans certaines couches de la société? Par exemple, on sait que les auditeurs et auditrices de podcasts sont plutôt urbains trentenaires. Est-ce que la parole se libère auprès d'eux uniquement ou est-ce qu'on assiste véritablement à une libération de la parole au niveau générationnel?
Si elle se libère d'une manière générale, bien sûr. Donc il y a beaucoup plus d'espace de parole et ça, je pense, Pauline pourra en parler un peu plus parce que autant quand elle était dans son parcours PMA, il n'y avait absolument aucune ressource et les podcasts n'avaient pas encore explosé comme ils ont explosé maintenant aujourd'hui. Autant nous, quand on était dans notre parcours, il y avait des espaces de plus en plus importants autour de ces questions-là. On a même pu témoigner, nous, dans un podcast sur le deuil périnatal, donc, qui est assez spécifique quand même. Donc oui, il y a une forme de libération de la parole. Après, le problème avec tout ça, c'est que ça reste un peu en vase clos. Ça s'ouvre un petit peu. Des impressions que j'en ai, hein. Ça s'ouvre quand même un petit peu, mais ça manque de... On prend toujours l'exemple, par exemple, sur les violences faites aux femmes, c'est un truc qui pouvait rester un petit peu aussi de libération de la parole un peu en vase clos, mais Muriel Robin a fait un film sur l'affaire, je sais plus quelle affaire, pardon, en prime time sur TF1, sur les violences faites aux femmes, ça a ouvert le sujet à vraiment plein de couches sociales et de gens plus ou moins concernés. Ça a touché beaucoup plus de gens que simplement un podcast. Donc, ça manque encore de ça. L'infertilité, je pense, manque encore de ce truc-là. The Handmaid's Tale, ça a été un vrai phénomène, mais ça reste de la fiction. Ça reste une sorte d'une dystopie un peu lointaine. Donc, on peut tout à fait se prendre le bouclier de la fiction pour se dire tout ça est lointain. Mais j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de créateurs, de jeunes créateurs, même dans les cinémas. J'ai vu un court-métrage récemment sur l'infertilité. Qu'il y a des choses qui se font à droite, à gauche, que les gens ont envie d'en parler, que les gens ont envie de s'emparer du sujet et de le faire comme d'autres sujets de société.
Je pense que c'est là aussi, du coup, que les influenceurs et les influenceuses, en fait, vont aussi prendre prennent un rôle aussi là-dedans. Et c'est vrai qu'elles sont de plus en plus, c'est plus surtout des femmes qui témoignent, à raconter qu'elles souffrent d'endométriose, qu'elles souffrent d'SOPK, qu'elles ont du mal à avoir des enfants, mais elles le racontent une fois qu'elles sont enceintes aussi. J'ai l'impression plus facile de le raconter a posteriori souvent que quand on est dans le vif du sujet. Et c'est vrai qu'en fait, les influenceuses, aujourd'hui, elles ont beaucoup plus d'audience même que les journalistes autrefois. Et quelque part, c'est là aussi que ça se fait. Et même au niveau des différentes couches sociales, en fait, quand on voit Instagram ou les réseaux sociaux, en fait, ça touche vraiment tous les milieux. Donc, je pense qu'elles vont vraiment avoir un rôle à jouer. Et moi, je mise beaucoup là-dessus et je les encourage grandement à toutes celles qui peuvent, qui veulent, qui se sentent capables de le faire. Parce que c'est vrai que je trouve que c'est un peu frustrant quand... on nous raconte qu'elles mangent sans gluten, elles nous font la révélation du sexe de l'enfant. Donc en fait, on est dans des niveaux d'intimité hyper poussés. on connaît la marque de leurs culottes de règles, ok, très bien, si tu veux. Mais du coup, va au bout de la transparence et dis-moi, en fait, que t'as dû avoir un parcours PMA pour avoir ton enfant, parce que là, du coup, ça sert, en fait, la santé publique et ça lève le voile sur des difficultés et montre pas que la jolie face de ta petite famille trop mignonne, trop instagrammable, et raconte aussi les difficultés, parce que ça peut aider d'autres personnes en difficulté qui peuvent se sentir moins seules, se reconnaître. Et c'est vrai que pour faire un parallèle, par exemple, avec le cancer du sein, par exemple, il y a Émilie Dodin, qui est Émilie Brunette, qui a eu un cancer du sein et qui en a beaucoup parlé, qui a beaucoup encouragé, qui a lancé un podcast, qui a encouragé au dépistage. Et c'est vrai que derrière, il y a des dizaines et des centaines de femmes, peut-être des milliers, j'en sais rien, je ne sais pas quels sont les retours que lui font ses abonnés, mais qui sont allées consulter, qui ont fait de l'autopalpation. Et du coup, on se rend compte que, clairement, à travers son exemple à elle, qu'elle a un rôle quelque part de vigie, d'ambassadrice aussi d'une cause. Et peut-être que, du coup, toutes ces influenceurs et influenceuses-là, s'ils se mettent à en parler, en fait, c'est ça qui va être, le plus utile. Et c'est assez drôle parce que, justement, dans le rapport qui est sorti, là, le 21 février, sur les causes de l'infertilité, du coup, qui encourage à une stratégie de lutte nationale, il y a dans l'information auprès des jeunes, ils parlent de passer par des influenceurs ou des influenceuses. Et du coup, j'espère qu'ils passeront par des gens qui sont vraiment concernés et qui ne vont pas payer des influenceurs qui ne sont pas du tout concernés pour nous dire « Allez faire tester votre fertilité, je vais aller faire mon fertility check ». Mais du coup, ça veut dire qu'ils ont clairement identifié que c'était là-dessus aussi que ça se jouait. Et donc voilà, je trouve que les réseaux sociaux, en fait, ça va aider à libérer la parole. Après, voilà, est-ce que c'est parce qu'on suit une influenceuse qui, elle, en parle, qu'on se sent après capable d'en parler à sa famille, à ses amis? Voilà, c'est une autre étape encore. Mais déjà, d'avoir l'info et le témoignage d'autres personnes, on va dire, c'est une première étape. Et se mettre à soi-même en parler, c'en est une deuxième. Et peut-être qu'en se mettant soi-même à en parler à quelqu'un, bah, l'autre personne va dire bah, « moi aussi ». Et les deux n'avaient peut-être pas osé s'en parler mutuellement. Mais c'est toujours plus simple, en fait, d'en parler à des gens qui partagent. Et c'est pour ça qu'on se rend compte que les gens en parlent beaucoup sur Facebook, plus facilement sur Facebook, à des gens qui ne connaissent pas, qu'à leur entourage et à leurs proches qui ne sont pas concernés. Et du coup, c'est assez fou, en fait, cette dichotomie entre... à qui je choisis d'en parler, à des inconnus. Je raconte que je suis J3, que machin, que comment je fais ma piqûre, parce que c'est... Et par contre, je vais pas oser en parler à des gens très proches.
Sur cette libération de la parole, on peut aussi parler d'ailleurs des grandes figures comme Michelle Obama, comme Chrissy Teigen, qui a parlé de sa fausse couche et tout ça. Mais le gros problème, c'est les hommes. Le gros problème, enfin, un des gros points aveugles, c'est les hommes. Pour en revenir par exemple au questionnaire qu'on a adressé, on a eu 481 réponses, il y a eu, je crois de mémoire, 11 hommes qui ont répondu sur les 481. C'est encore vraiment beaucoup trop vu comme quelque chose de féminin. Parce que, notamment, les questions d'infertilité, pour les hommes, c'est vraiment vu encore aujourd'hui comme un problème de virilité, comme un problème d'impuissance, comme un problème très très... très lié à la définition même d'être un homme, en fait. Ne pas avoir de bons spermatozoïdes, c'est ne pas être un homme. C'est très ancré encore aujourd'hui. On a eu des témoignages, justement, parmi les 11 là, qu'on a réussi à extirper, de gens qui disaient, qui trouvaient ça d'ailleurs très, très injuste. Il y en a un notamment, je pense, qui dit qu'il trouve ça très injuste parce qu'il ne boit pas, il ne fume pas et tout ça, et puis il se retrouve qu'il a zéro spermatozoïde dans son sperme, et qui dit « mais je n'arrive pas à en parler, j'arrive pas à en parler à mes copains ». Je l'ai vu faire parce que c'est un pote du foot, on avait discuté ensemble, donc il m'avait déjà donné son témoignage, et je savais qu'il revenait... d'une biopsie testiculaire, enfin il y avait pas mal de trucs à faire et tout ça, et donc il devait arrêter de jouer. Il avait arrêté de jouer pendant quelques semaines, quelques mois même, et quand il revient, il y a des mecs avec qui il joue au foot toutes les semaines qui lui demandent « Bah, on t'a pas vu et tout, qu'est-ce qui s'est passé ?» Il me dit « Ah non, mais j'ai eu une maladie, j'ai dû faire un truc et tout ça. » Et j'étais vraiment là, juste en face. Donc, évidemment, j'ai rien dit. J'ai dit « Ah, d'accord, très bien, ouais, c'est bon, bah, tant mieux si ça va mieux et tout ça. » Mais incapable de dire « Bah ouais, j'ai dû faire des examens parce que je galère pour faire des gosses. » Il n'y a pas besoin de rentrer dans les détails, de dire je sais pas quoi, j'ai pas de spermatozoïde ou je sais pas quoi, mais il n'arrivait pas à en parler. Il n'arrivait pas à en parler, c'était pas possible. Et le don de spermatozoïde, enfin, accueillir un don de spermatozoïde, c'est aussi quelque chose, oh, c'est assez compliqué. Donc, il y a un espace qui n'existe pas encore aujourd'hui, comment il s'appelle ce compte Instagram avec Papa PMA,
je sais plus. Côté monsieur.
Côté monsieur, voilà, la PMA côté monsieur, je l'avais contacté je ne sais plus quand, mais il m'avait expliqué que 85% de son auditoire, c'était des femmes. Donc même quand c'est un homme qui tente de s'adresser aux hommes, c'est quand même des femmes qui suivent. Donc voilà, là il y a un grand truc encore qui va prendre du temps, je pense, à être réglé, et qui va se jouer. On propose des pistes hein, dans le fait de proposer un passage chez l'andrologue, donc le pendant masculin du gynécologue, dès les 17-18 ans, d'apprendre aux hommes de faire partie de ce parcours-là, assez tôt. Mais ça, c'est...
Moi, j'avais une solution, Victor, il faut que tu deviennes influenceur infertilité oh là là, homme, parce que le créneau est à prendre.
Non, mais après... Voilà, il y a les photos, il y a le livre et tout ça. Après, je vais faire une pause. Je pense que je vais...
Voilà, bref, il y a un créneau à prendre. Si quelqu'un veut le prendre, voilà, il faut un mec qui parle de ça. Il y a de la place.
À les réseaux sociaux. On les aime autant qu'on les déteste. Une personne interrogée dans l'enquête dit que les réseaux sociaux sont carrément l'ennemi de la PMA. Cette experte prend pour exemple le fait que certains patients ou certains infertiles vont refuser de payer 60 euros pour une consultation chez un psy dont elles jugent qu'ils auraient besoin, mais vont aller se faire arnaquer et acheter des bêtises en ligne. Moi, je pense qu'ils sont aussi fantastiques que dangereux, les réseaux sociaux. Il y a d'ailleurs de grandes chances que vous n'ayez jamais été en train d'écouter aucun épisode d'Alerte s'ouvre bientôt si j'en avais pas fait un petit peu la promo sur les réseaux sociaux, par exemple. Mais dans le même temps, un véritable business, pas toujours bienveillant, s'y est développé autour de l'infertilité. Et c'est justement le dernier volet de l'enquête.
Alors c'est vrai que là aussi c'est pas évident, hein. Les chiffres c'est pas évident, mais là aussi c'est pas évident, c'est qu'il y a des choses en fait qui font du bien à certaines femmes, qui va fonctionner chez certaines. On peut parler déjà de la médecine douce aussi, où du coup il y a un business et puis il y en a certaines qui croient, d'autres qui croient pas, d'autres ça va leur faire du bien, d'autres non, d'autres où ça sera un effet placebo. En fait, on se rend compte que il y a beaucoup de femmes, vu qu'elles se sentent peu écoutées et entendues dans le parcours classique, en fait elles vont avoir besoin d'avoir des rendez-vous avec, un acupuncteur, parce que c'est quelqu'un qui va s'occuper d'elles, qui va s'intéresser à leur parcours, etc. Donc on se rend compte qu'il y a ça, en fait, qui est là derrière. Et après, au-delà de des médecines douces, il y a tout ce qui est vraiment marchandisation de l'infertilité. Et ça, on s'est vraiment rendu compte que c'est tout le business qui était quelque part calqué sur la grossesse, avec toutes ces cartes étapes, par exemple, 2 mois, 3 mois, 4 mois de l'enfant, on fait la photo, etc. Du coup, ça s'est... on va dire déporté sur l'infertilité avec ces cartes qu'on prend en photo, ponction, transfert, etc. Donc, et c'est vrai qu'en fait, quand on y réfléchit, il y a un business parce qu'il y a aussi des couples qui ont des moyens, on va dire des couples qui se disent, financièrement, on est prêt à avoir un enfant, même si c'est pas forcément la question, on fait pas un enfant parce qu'on est prêt financièrement, mais souvent, ils ont aussi le budget derrière pour assumer un enfant, et sauf que l'enfant va mettre plusieurs années à venir, et du coup, quelque part, c'est un budget disponible et qu'ils vont investir aussi dans ce parcours. Ce serait une question intéressante de voir si dans des pays où du coup la PMA est payante, il n'y a plus de budget disponible pour acheter des trucs à côté. Et là, quelque part, quand on est dans un parcours public où presque tout est pris en charge, où on n'a pas trop de dépassement d'honoraires, du coup peut-être que c'est plus tentant en fait de se dire j'achète les petites vitamines qui vont bien, la petite tisane, les gens se mettent la pression et se disent je veux mettre toutes les chances de mon côté, donc je vais aller prendre la petite tisane, la petite perle, je sais plus c'est quoi, de quelle perle, les bracelets de fertilité, les compléments alimentaires, les tisanes, qu'est-ce que j'oublie, tout ce qui peut aider. Il y a des sortes de cups, je crois, qui retiennent le sperme. Se dire, je vais aller voir un ostéo, moi-même, j'étais allée voir un ostéo avant mon transfert, donc voilà, je jette pas du tout la pierre et je suis pas du tout anti. Quand on voit en fait tous les sacrifices en fait que ça demande ce parcours-là, on se dit je suis plus à quelques euros près et si l'ostéo il peut tout bien me placer pour que j'ai pas un truc coincé dans le bassin et que le transfert se fasse bien, voilà, moi-même je l'ai fait et je comprends que d'autres couples le fassent. Après c'est vrai que il y a des choses qui sont quand même beaucoup plus gadgets, les cartes étapes, du coup, je suis forcément plus sceptique. Après, les gens sont libres. Si ça leur fait plaisir, si ça leur fait du bien, c'est un parcours qui est tellement compliqué que c'est dur de totalement jeter la pierre. Il y a tous ces coachs qui se développent. Et c'est souvent des personnes qui sont passées par là et qui disent qu'ils sont là pour aider d'autres couples. Donc, ça part d'une bonne intention. Après, quand c'est 600 euros les 5 semaines, c'est compliqué de se dire, est-ce que cette personne est légitime? Est-ce que ce serait pas mieux d'aller voir un psy ou une psy ou quelqu'un qui peut qui a un diplôme avec le risque de dérive, de tomber sur quelqu'un de très bien mais aussi sur des arnaqueurs, et du coup ça reste très flou. Et du coup l'idée c'était d'alerter un peu sur les risques de dérive possibles, mais sans jeter la pierre et se dire qu'il y a des choses qui peuvent faire du bien à certaines femmes aussi. Donc voilà, chacun est grand, voilà, chacun est grand et responsable, mais voilà.
Enfin, moi, en tout cas, dans la démarche, je m'étais, j'avais pas mal d'a priori sur ces médecines douces, parce qu'en plus, généralement, elles sont pas du tout destinées aux hommes. Donc voilà, j'avais le luxe de l'a priori. Et je pensais que j'allais tomber vraiment sur des arnaqueurs, des femmes qui se faisaient complètement mener par le bout du nez, et ça existe probablement. Hein. Mais en fait, dans tous les témoignages qu'on a eus, qui sont pas forcément représentatifs de l'ensemble de la population française, mais enfin bon, dans tous les témoignages qu'on a eus, j'ai vraiment posé la question à chaque fois, et les femmes disaient « Non mais on est au courant, on sait que ça va pas débloquer le truc, on sait que ça va pas être magique, voilà, y a pas, voilà, on le sait, mais bon, ça nous fait du bien, ça nous aide, ça nous accompagne, ça, tout ça. » Et c'est juste qu'il faut être conscient qu'effectivement, il n'y a rien de miraculeux dans ces trucs-là, et que y a quand même des charlatans. Je sais pas, il y a des chiffres. Maintenant, évidemment, comme on a fait des recherches là-dessus, il y a Instagram qui pendant longtemps nous a proposé des coachs en fertilité de toutes sortes et de toutes. C'était un peu flippant. Qui avancent des chiffres, qui disent grâce à nous, 80% des couples qui nous suivent et tout ça machin. Mais c'est des chiffres complètement biaisés parce qu'évidemment les couples qui suivent sont déjà dans un parcours. Que les couples qui suivent et qui se font aider ont le temps, ont les moyens, enfin on se donne le temps ou se donne les moyens pour aller jusqu'au bout. Et en plus, le côté positif, hein, le cercle vertueux de se faire aider par d'autres personnes à côté, c'est que on se relève plus vite, on est capable de faire plus d'essais, et donc statistiquement, on va réussir. Voilà, on va y arriver. On va donner un coup de pouce à la médecine, en fait. Donc voilà, c'est dans ce flou-là que se nichent un peu les détails et les. Mais, alors, deux choses. Il y a, d'une part, le fait que il faut surtout pas, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut pas croire que c'est que des gens qui ont de la thune qui font ça. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens, comme le disait un peu Pauline aussi, qui vont décider de consacrer une partie de leur budget, qui vont faire des emprunts, des petits trucs, hein, des trucs de 1500 euros, 3000 euros à droite à gauche, parce qu'ils veulent absolument avoir un enfant, parce que c'est vraiment hyper important pour eux, pour leur famille, pour leur accomplissement d'avoir un enfant. Donc, qui vont pas gagner grand-chose, mais qui vont décider de mettre vraiment tous leurs moyens, reporter le prêt de la baraque, j'en sais rien, n'importe quoi, et pour avoir un enfant. Donc ça touche toutes les couches sociales, c'est pas seulement les urbains aisés. Et puis un autre truc, c'est que ça j'en avais discuté notamment avec la dessinatrice Marie Dubois, qui a fait une BD sur l'infertilité qui était vachement bien, et qui me disait mais qu'en fait les vrais charlatans, c'est pas tant les gens qui proposent des accompagnements comme ça, qui essaient de se faire un peu de blé là-dessus, ça va plutôt être les médecins qui vont faire, enfin certains médecins évidemment, loin d'être tous, qui vont proposer des parcours qui vont laisser les gens un peu dans l'errance. Voilà, c'est un peu ça le problème, c'est qu'il y a beaucoup de médecins qui sont très affirmatifs, qui peuvent être très très culpabilisateurs, culpabilisants peut-être, bonjour, qui peuvent être très culpabilisants et qui vont accueillir des gens qui sont dans la détresse, dans la faiblesse, dans un moment très difficile pour eux, et qui vont pas du tout les aider en fait. Et c'est vraiment là potentiellement qu'il y a le plus de choses à faire et le plus de choses à changer pour accompagner mieux les personnes qui sont en parcours de PMA, en parcours infertile.
Pour terminer, tournons-nous vers le futur. Vers quoi va tendre, ou devrait tendre, la prise en charge de l'infertilité en France à moyen et long terme ?
Alors, j'espère, moi, en tout cas, qu'on va rester sur une prise en charge par l'État, en fait, public, mais qu'on puisse quand même progresser au niveau de la technologie. Donc, je ne sais pas de quelle manière, en fait... Mais voilà, j'ai du mal à imaginer que la France revienne, en fait, sur tout ce qui est sécurité sociale, et que ça, c'est quand même un modèle... hyper important, et je pense que ça aussi on s'en rend compte quand on écrit le livre et on se dit en fait dans notre malchance on a aussi cette chance là d'être dans un pays où on est pris en charge même si c'est pas parfait, s'il y a du coup pas de don d'ovocytes parce que pareil c'est le don gratuit, donc en fait ce super modèle là qui nous permet d'avoir accès gratuitement à un traitement de PMA je dis entre guillemets gratuitement, parce qu'en fait beaucoup de gens vont dans le privé pour attendre moins longtemps, etc. Donc on peut avoir accès gratuitement à la PMA, mais dans la contrepartie, c'est que vu que le don est gratuit, ben en fait pour certaines choses on doit aller en Espagne. J'ai envie de dire qu'en fait on est dans un système mondialisé où les gens vont faire un peu un benchmark des pays, et que quelque part en fait on aujourd'hui du coup la question c'est, est-ce qu'un jour au sein de l'Europe, l'Europe va suffisamment avancer ensemble pour harmoniser les choses? C'est ça un peu la question. Est-ce que dans 50 ans, vu que, alors que, par exemple, sur les perturbateurs endocriniens, ça se gérerait au niveau européen, de se dire, ben voilà, les perturbateurs endocriniens sont nocifs pour la santé publique, dont l'infertilité, il faut qu'on légifère ensemble. Ça se ferait au niveau européen. Mais après, le traitement de l'infertilité ne serait pas le même dans chaque pays. Du coup, c'est un peu complexe de se dire, voilà, quel est le modèle français, comment il va s'inclure dans un modèle européen. Et quelque part, sur toute la planète, on voit qu'il y a quand même clairement une commercialisation, un business de la santé derrière. Donc, comment nous, on peut continuer avec notre singularité là-dedans? Ça va être assez intéressant d'étudier ça. Mais malheureusement, c'est compliqué de faire des projections là-dessus. Mais voilà, ça va aussi dépendre. Du coup, là, il y a eu un rapport qui est en France là-dessus. Donc, quelle stratégie nationale va être mise en place dans les prochains mois? Et j'espère, en fait, je ne sais pas trop comment ça va se passer, puisqu'on est quand même en année présidentielle. Donc, je ne sais pas si d'ici les prochaines élections, il va y avoir... j'ai du mal à croire que là, d'ici les prochaines élections, il y a une stratégie sur l'infertilité qui va arriver en pleine campagne présidentielle. De mon point de vue, c'est à l'État de légiférer et d'essayer de faire avancer les choses plutôt que de laisser des acteurs privés, en fait, s'emparer du business. Et je pense que ce sera plutôt au détriment des couples, parce qu'il n'y aura que ceux qui ont les moyens qui pourront traiter ça. Et du coup, la France a aussi un rôle à jouer dans la singularité de son système. Et du coup, c'est génial de permettre ça à tout le monde, mais il va falloir améliorer un peu niveau performance. On a l'impression que la performance, c'est que là où, du coup, dans le système privé. Donc, c'est un peu frustrant, en fait, de se dire, on ne peut pas être bon dans tout.
Sur le modèle français, moi, je suis un peu pessimiste, parce que à cause des derniers développements, de comment on considère la santé aujourd'hui, de l'hyperconcentration des hôpitaux, par exemple, où c'est de plus en plus compliqué d'aller dans un service PMA, probablement dans les années à venir, à voir comment ça évolue, mais les choses tendent vers ça. Et en fait, j'ai l'impression que le modèle, qui est le modèle défendu aujourd'hui, va laisser la place à, je sais pas, des startups, des trucs comme ça. Donc quand on va être un peu éloigné, on pourra, comme aux États-Unis, on peut déjà le faire, envoyer un courrier pour aller congeler son sperme, et puis, voilà. Pourquoi pas un jour congeler ses ovules, mais je ne sais pas, c'est pas encore au point.
Bah, c'est un bénéfice offert par les employeurs aux États-Unis beaucoup.
Oui, en plus.
Si tu rentres chez Google, viens congeler tes ovocytes. Comme ça, oui, tu peux travailler pour nous et pas faire d'enfants trop vite.
C'est vrai, ce qui est vraiment flippant, je trouve. Donc à voir si ça va jusque là. Moi je suis pas hyper optimiste sur cette question là, parce que c'est d'autant plus d'inégalités de gens qui pourront y accéder ou pas y accéder.
Et ce qu'on peut aussi rajouter, c'est que là, du coup, l'ouverture à la PMA pour toutes, voilà, qui est une super nouvelle et qui est une avancée très importante, il faut qu'il y ait aussi des moyens pour garantir, en fait, cette avancée-là dans les faits. Parce que du coup, si ça rajoute des listes d'attente d'autant plus longues, en fait, ce droit-là, il sera marqué sur le papier dans la loi, mais il ne sera pas effectif. Et du coup, ça va mettre en concurrence des couples ou des personnes seules face à des couples entre eux, et du coup ça sera pas forcément une bonne nouvelle. Donc il faut qu'il y ait aussi des investissements derrière, voilà. Donc ça va être un peu aussi la grande question sur comment la PMA qui était réservée aux hétéros va réussir à s'ouvrir à tout le monde. Est-ce que tout le monde va vraiment pouvoir en bénéficier selon ces modalités là et du coup ça va être aussi une des questions qu'il va falloir vraiment surveiller dans les mois qui viennent et dans les années qui viennent, pour qu'on ait un premier recul, en fait. Voilà, moi je suis une femme seule, je vais aller congeler mes ovocytes, combien de temps il me faut pour vraiment que ce soit effectif, et combien de temps d'attente j'ai dans les sécos. Donc ça aussi, c'est au niveau actu une des questions qu'il va falloir checker dans les prochains mois. Voilà, ça peut être un tome 3. On a beaucoup de boulot, en fait.
Voilà qui conclut ce nouvel épisode. je tiens à adresser un immense merci à Pauline Pellissier et à Victor Point de s'être prêtés au jeu des questions et pour ce partage passionnant de leur enquête sur la génération infertile. Pour retrouver l'ouvrage auquel nous faisons référence, direction toutes les librairies de France, édition Autrement de Flammarion. Merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si vous souhaitez vous aussi venir échanger à propos de cet épisode ou de cette enquête, et ben rendez-vous sous le dernier post du compte Instagram @alorscestpourbientôtpodcast. J'ai hâte de vous y retrouver. En attendant, je vous souhaite une très belle journée et je vous retrouve bientôt. Prenez soin de vous.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.